Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 1er février 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Plus de 2 millions de Français dans la rue contre Macron. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, victoire de la révolution islamique d'Iran, début des festivités du 44e anniversaire. Le président iranien affirme que son administration a réussi à maîtriser la flambée de l'inflation, promettant davantage de travail pour améliorer les conditions de vie de la population. Et puis l'attaque de drones à Isfahan, un rapport indique que des groupes kurdes anti-iraniens basés en Irak y étaient impliqués. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les célébrations marquant le 44e anniversaire des jours qui ont abouti à la victoire de la révolution islamique commencent en Iran. Les festivités commencent le 1er février, le jour où le fondateur de la République islamique, Imam Khomeini, est entré en Iran depuis la France après 15 ans d'exil. Son arrivée a intensifié les protestations contre le régime despotique Pahlavi au pouvoir à l'époque et soutenu par les États-Unis. 10 jours plus tard, le régime despote touche à sa fin par la victoire de la révolution islamique. La révolution islamique de 1979, dirigée par le défunt Imam Khomeini, a établi un nouveau système politique basé sur les valeurs islamiques et la démocratie. Chaque année, des millions d'Iraniens descendent dans la rue pour assister aux festivités, également connues sous le nom de Dahe Fajr. De retour triomphal à Téhéran de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, le 1er février 1979, au départ du dernier gouvernement du Shah, 10 jours plus tard, rappelle des étapes clés qui ont précipité l'effondrement de 25 siècles de monarchie en Iran. Cette décade de l'aube, selon la terminologie officielle, est célébrée chaque année comme la victoire de la révolution islamique. Le jour du 1er février a été marqué par l'accueil historique le plus magnifique réservé par le peuple iranien à l'imam Khomeini lorsque l'avion d'Air France a atterri aux alentours de 9h du matin à l'aéroport de Mehrabad de Téhéran. L'imam Khomeini, avec un cœur paisible et sûr, après 15 années d'exil, a posé le pied sur la terre de la patrie islamique. 33 ans après sa triste disparition, l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, reste une source de référence de premier plan dans son pays, où son héritage théologico-politique continue d'irriguer les institutions qu'il a contribué à lancer. Sa pensée s'est développée autour de la défense de l'islam et des déshérités et du rejet de la modernité occidentale et de l'impérialisme. Le président iranien affirme que son administration a réussi à maîtriser la flambée de l'inflation, promettant davantage de travail pour améliorer les conditions de vie de la population. Ebrahim Raisi a déclaré que le taux d'inflation a connu une baisse de 20% sous sa direction et se situe actuellement à 40%. Ebrahim Raisi a déclaré que le taux d'inflation a connu une baisse de 20% sous sa direction et se situe actuellement à 40%. Le président a déclaré que les récentes émeutes dans le pays ont perturbé les marchés locaux et fait grimper les taux de change. Raisi a déclaré que son administration cherche à stabiliser le marché et à s'assurer que les moyens de subsistance de la population ne sont pas affectés par les fluctuations des marchés de change. Sahara, l'Iran apprécie l'initiative de paix de la Mauritanie. En visite officielle en Mauritanie, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré le mardi 31 janvier le président mauritanien Mohamed Ould Ghazaouani à Nouakchott. Les deux hommes politiques ont échangé leurs points de vue sur les évolutions régionales, internationales et l'élargissement des relations bilatérales sur différents plans, notamment la technologie, la culture, l'économie et le commerce. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ensuite apprécié les efforts du président mauritanien et son initiative en vue d'établir la paix et la sécurité et de lutter contre le terrorisme dans la région du Sahara. Il n'a pas manqué, par ailleurs, de transmettre les salutations du président iranien à son homologue mauritanien. Cette rencontre a également porté sur la nécessité de soutenir le peuple et la cause palestinienne et la promotion des liens entre les pays musulmans ainsi que la tenue d'une réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères à Nouakchott en mars 2023. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazaouani a pour sa part adressé ses salutations à son homologue iranien Ebrahim Raisi. Il a qualifié les liens entre l'Iran et la Mauritanie d'historiques et de solides. Ghazaouani a ensuite souligné le rôle de la République islamique d'Iran dans la lutte contre le terrorisme, en allusion aux acquis industriels, scientifiques et technologiques iraniens. Il a prôné pour la nécessité d'élargir les relations avec l'Iran. Les États-Unis ont ciblé sept autres entités iraniennes avec des sanctions sous prétexte qu'ils ont produit des drones et les ont fournis à la Russie pour qu'ils les utilisent en Ukraine. Le département américain du commerce, dans un communiqué, a déclaré que les entités inscrites sur la liste noire comprennent la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, Quds Aviation Industries et Paravar Ports Company, entre autres. Il a accusé l'Iran de fabriquer et de transférer des véhicules aériens sans pilote à la Russie. Les responsables occidentaux et ukrainiens ont lancé de telles accusations à plusieurs reprises au cours des derniers mois. L'Iran a rejeté les accusations affirmant qu'il avait vendu des drones à la Russie avant le début de la guerre. La République islamique d'Iran affirme qu'elle a maintenu sa position neutre et veut arrêter le conflit en Ukraine par le dialogue et la diplomatie entre les parties belligérantes. Sachez d'autre part que l'Union européenne impose également des sanctions à la compagnie des industries aéronautiques de la République islamique d'Iran. Selon l'IRNA, l'Union européenne a ajouté mardi une société iranienne à la liste de ces sanctions pour avoir prétendument fabriqué des drones pour le corps des gardiens de la révolution islamique et pour les prétendues livraisons à la Russie de drones dans la guerre en Ukraine. Autre thème, un rapport indique que des groupes kurdes anti-iraniens basés en Irak ont été impliqués dans l'attaque de drones de samedi sur un site militaire dans la ville iranienne centrale d'Isfahan. Le rapport a été publié par Nour News, une agence affiliée au Conseil suprême de la sécurité nationale iranien. Il a indiqué que certains groupes de la région semi-autonome du Kurdistan irakien avaient fourni du matériel et des explosifs à travers la frontière pour être utilisés dans l'attaque. Le rapport indique en outre que les assaillants ont reçu des ordres d'une agence d'espionnage étrangère et ont utilisé à cette fin une route presque infranchissable dans le nord-ouest de l'Iran pour transférer ces matériaux. Le rapport n'a pas précisé le pays ou l'agence derrière l'attaque. Au cours du week-end, 3 micro-véhicules aériens ont tenté de cibler un complexe du ministère de la Défense iranien à Isfahan. Les unités de défense aérienne iranienne ont cependant réussi à repousser l'attaque. L'Iran a annoncé qu'il peut changer de stratégie par rapport à la guerre en Ukraine et ce suite aux propos hostiles de Kiev sur l'attaque de drones à Isfahan. Téhéran a ainsi réagi en réponse à l'aveu implicite de la responsabilité du gouvernement de Kiev dans l'attaque de drones dans la ville d'Isfahan. L'Iran a également averti qu'il ne tolérerait aucune agression contre son territoire et ses intérêts et qu'il donnerait une réponse décisive aux récentes menaces brandies par le secrétaire d'État et le conseiller américain à la sécurité nationale. Enfin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réagi dans un tweet au passage à tabac de femmes palestiniennes captives dans la prison israélienne de Damon et a qualifié cet acte du régime sioniste d'odieux. Nasser Kanani a remis en question la manière sélective dont les États-Unis et les pays européens réagissent aux violations des droits de l'homme commises par Israël. Entre-temps, le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a déclaré que les violations israéliennes contre les prisonniers palestiniens ne resteront pas impunies. Le Hamas a appelé les jeunes Palestiniens à maintenir la résistance contre le régime israélien. Mardi, le service pénitentiaire israélien a placé à l'isolement des femmes palestiniennes emprisonnées dans l'établissement de Damon. Les autorités pénitentiaires auraient également agressé la représentante des femmes au centre de détention. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Millions de Français dans la rue contre Macron. La France a connu hier la plus importante mobilisation sociale depuis 30 ans. Le mouvement contre la réforme des retraites a fait descendre dans les rues au moins 2,8 millions de manifestants contre l'Élysée. Dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes et Montpellier, mais aussi dans les petites villes telles que Calais, Périgueux, Toulouse, Bordeaux, Rouen et Strasbourg, la grève générale du 31 janvier 2023 était bien suivie par les Français en colère contre le régime macronien. Born to Kill s'est affiché sur un placard dans la main des manifestants, adressant ainsi un double message alarmant aux autorités françaises. Un grand échec pour Élysée qui continue de négliger la volonté du peuple dans un geste antidémocratique. Selon les chiffres de la police, la mobilisation d'hier était la plus grosse des 30 dernières années. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Grève 7 février rappelle que ce mouvement ne veut pas baisser les bras. Une mobilisation est née pour mettre fin aux exigences libérales de grandes multinationales qui dirigent les pays européens et excellent dans les emplois fictifs, le conflit d'intérêts et la fraude fiscale.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat. Nous sommes en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Ces derniers jours, on a constaté une escalade de tensions dans les territoires occupés suite aux attaques du régime sioniste contre les civils, aussi bien à Jenin que au Gaza assiégé, une escalade de tensions qui s'est suivie par des ripostes et des représailles et des opérations de représailles de la Palestine occupée, des territoires occupés, de l'axe de la résistance, des tensions qui montent et qui sont palpables encore aujourd'hui sur les territoires occupés. Il y a eu également des réactions des alliés de la Palestine, dont l'Iran, l'Algérie, plusieurs autres pays du monde entier. Et il y a eu également des réactions, bien sûr, des alliés du régime sioniste, dont les États-Unis et surtout de Joe Biden en personne. Mais les tensions se poursuivent. À quoi devrait-on s'attendre dans les jours à venir? Quel est l'objectif que poursuit le régime sioniste à travers ces tensions et aussi ces déstabilisations? Nous allons poser ces questions à nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
En réponse à l'opération Roots, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les sionistes, les mouvements de résistance palestiniens, Hamas et Djihad islamique, ont annoncé vendredi soir, 27 janvier, que cette opération vengeait le sang des martyrs de Jenin. Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif Al-Kanou, a déclaré que l'opération héroïque Roots était le prélude à la réponse aux crimes des sionistes, dont le dernier en date a été commis dans le camp de Jenin. Elle représente le consensus palestinien dans la résistance à l'occupation et la défense de la terre et des lieux saints. Cette opération montre l'incapacité du régime d'occupation à affronter les forces de résistance, a-t-il ajouté. Un porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a également déclaré que l'opération Roots avait été menée en représailles aux crimes des sionistes dans le camp de Jenin. D'autre part, le porte-parole du djihad islamique, Tariq Ezzeddine, s'est félicité de cette opération héroïque. L'ennemi ne comprend que le langage de la force, a-t-il indiqué. Le Front démocratique pour la libération de la Palestine a également déclaré dans un communiqué « Nous félicitons le peuple palestinien de l'opération Rose et confirmons que ce n'est que le coup d'envoi à une nouvelle phase de la résistance globale populaire ». Les Palestiniens sont descendus dans la rue dans différentes villes, dont Rhodes, Jenin, Naplouse et la bande de Gaza, pour exprimer leur joie. Vendredi soir, un Palestinien qui, selon la police du régime israélien, est l'un des résidents du camp de Shuafat, situé à Rhodes Est, occupé, s'en est pris aux sionistes dans le quartier d'Al-Nabi Yagoub, situé à Rhodes Nord. Au moins 7 d'entre eux ont été abattus et 10 autres blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Suite à la nouvelle opération Martyr, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé une réunion de sécurité urgente avec les hauts responsables de la sécurité du régime. Le journal Yediot Aharonot a entre-temps rapporté que l'auteur de la récente opération anti-sioniste tuée par des soldats israéliens était membre des brigades des martyrs à l'Aqsa. La police et les forces de sécurité israéliennes sont arrivées sur les lieux de l'incident 20 minutes après le début de la fusillade, selon les médias israéliens. Les brigades des martyrs à l'Aqsa indiquaient que tous les combattants de groupes de résistance étaient en état d'alerte dans toute la Palestine occupée. L'opération de représailles palestinienne survient le lendemain du raid israélien mené dans le camp de réfugiés de Jenin, qui a causé 11 morts en martyrs palestiniens et 20 blessés. La situation dans les territoires occupés, en particulier en Cisjordanie, est ces derniers jours sensible et les combattants palestiniens répondent aux innombrables crimes des sionistes par tous les moyens.
Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Jacob Cohen, analyste politique, qui est avec nous par Skype depuis Paris. Également Rada Oubala, docteur Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban. Rada Oubala, si vous voulez bien, on commence avec vous. En ce qui concerne la situation actuelle, ces ripostes, mais surtout ces attaques contre Jenin et Gaza, et dans un premier temps, quel regard général portez-vous sur cette situation? Quel est l'objectif que suit le régime sioniste à travers ces provocations?
Disons d'abord bonjour à vous et à votre invité.
Merci.
Monsieur Cohen. Pour répondre à votre question, bien entendu, ce qui se passe ces deux derniers jours comme, non pas provocation, mais comme soi-disant des actes de réponse, si on peut s'exprimer ainsi, de la part de l'entité sioniste contre l'opération Al-Quds qui a eu lieu dans la colonie de Nabi Yaqub. En fait, c'est dans ce contexte qu'il faut analyser ce qui se passe actuellement. Et également, il faut le lier avec l'attaque de drones contre l'Iran samedi, et qui, selon le Wall Street Journal, a été menée par l'entité sioniste. Mais pour revenir à la question palestinienne, ou plus exactement à ce qui se passe en Palestine occupée, si on veut donner un titre sur les conséquences géopolitiques de cette double opération, parce qu'il y avait une opération qui a été menée par Khair al-Qam, et ensuite il y a une autre opération qui a été menée par à Silouane par un jeune de 13 ans.
Oui.
Et que ce sont des opérations qu'on appelle des opérations de loup solitaire. Je pense que le titre qu'on peut donner, c'est que on a enterré définitivement, c'est-à-dire ces deux opérations ont enterré la solution de deux États. C'est terminé. Là, nous sommes vraiment dans une nouvelle forme de résistance, de lutte. Il faut rappeler cette nouvelle génération de loups solitaires, elle a surpris les Israéliens, la police et les gardes frontières israéliens qui étaient totalement mobilisés dans toutes les zones de démarcation de la ville sainte. Il a choisi une faille, à savoir la colonie de Nabi Yaqub. La première génération des loups solitaires qui avait agi entre 2014 et 2015 est totalement différente de ce qui s'est passé il y a deux jours. À l'époque, les auteurs n'utilisaient pas d'armes à feu. Ils visaient la plupart du temps les militaires, surtout dans des zones où ils sont déployés de manière intensive. Donc, leurs opérations ne nécessitaient pas d'entraînement préalable. À la différence avec la seconde génération de ces loups qui semblent s'être bien entraînés, puisque il est clair qu'ils ont effectué un travail, que les deux, surtout la première personne, l'opération Al-Quds, il y a eu un travail de surveillance, de reconnaissance au préalable, ils ont utilisé des armes à feu et les manient avec perfection. Il en a été ainsi aussi, rappelons-nous, en octobre 2022, lors de la double opération aux explosifs dans la ville d'Al-Quds et celle du camp de Shoufa, réalisée par Oday Al-Tamimi. Ce qui est le plus dangereux pour les services de renseignement israéliens de leurs aveux est que les opérations réussies des loups solitaires sont devenues une source d'inspiration et d'imitation par les jeunes Palestiniens. Et ce qui est encore plus surprenant, ce qu'il faut bien analyser, en termes de géopolitique, c'est-à-dire en termes où on va utiliser le facteur psychologique, le facteur sociologique et le facteur religieux. Si vous combinez ces trois facteurs, ils sont reproduits, ils sont traduits dans ces deux opérations. Khairi Al-Qam est quelqu'un dont le grand-père a été assassiné, est tombé en martyr en 1998 quand il a été poignardé par le colon Filerman. Donc là, on a de génération en génération en génération, la lutte ou la résistance contre l'entité sioniste n'est plus seulement du monopole des factions de la résistance palestinienne, mais aussi elle est devenue le monopole de chaque individu du peuple palestinien. C'est pour ça que j'ai dit au début que voilà, ces deux opérations ont enterré la solution de deux États. C'est fini.
Merci Radha Obala pour vos explications. Restez en ligne. Monsieur Cohen, je vous dis bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez entendu les explications de Radha Obala. Vous avez également entendu notre reportage et les explications. Vous suivez de très près les évolutions en Palestine occupée dans les territoires occupés. À votre avis, quel a été l'objectif mené par le régime sioniste à travers ces crimes de guerre, ces attaques et ces provocations? Et dans un second temps, j'aimerais avoir votre analyse en ce qui concerne la perspective des évolutions dans les jours à venir. À quoi devrait-on s'attendre vu ce qui s'est passé ces derniers jours? Oui, voilà, le son est un petit peu brouillé. Je pense que mes collègues vont essayer de vous rejoindre. Peut-être ce sera par téléphone pour avoir une meilleure connexion, si vous voulez bien. En attendant, je vais poser la prochaine question à Radha Obala. Je reviendrai à vous, Monsieur Cohen. Radha Obala, il y a aussi des failles, en fait, au sein du régime sioniste lui-même, au sein du cabinet de Netanyahou. Il y a des manifestations depuis 48 heures au moins en Israël contre les politiques de Netanyahou. Contre son cabinet extrême-droitiste. Et sur ce sujet, que pensez-vous? Comment pourrait-on interpréter le lien entre ces failles, entre ces attaques et à quoi aussi devrait-on s'attendre dans les jours à venir?
Non, il n'y a pas une question de lien par rapport aux opérations, attention. Entre la formation du gouvernement, bon, pour les Israéliens, pour le peuple de l'entité sioniste, ils ont toujours essayé de montrer que, en fait, l'entité sioniste, entre guillemets, Israël, sera le seul, entre guillemets, État. Ce qui n'est pas un État, qui, par rapport dans le monde arabo-musulman, surtout au Moyen-Orient, est le seul État qui représente les droits de l'homme, la démocratie à l'occidental, etc., etc. Donc, quand on a un gouvernement qui est composé d'extrême droite, bien entendu, c'est tout le projet de l'entité sioniste que voulait les Occidentaux dans le Moyen-Orient, qui est tombé à l'eau, parce qu'ils savent parfaitement que ces extrêmes, tous les extrémistes qui sont au sein de ce gouvernement vont réagir de manière irraisonnable et trop flagrante. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vraiment défendre, entre guillemets, l'entité sioniste. Donc, en fait, la population israélienne craint justement que l'entité sioniste ne dévoile son véritable visage, si on peut s'exprimer ainsi. Mais, encore, ce qui est encore plus intéressant à souligner, c'est que autant vous avez d'extrême droite au sein du gouvernement, autant ces réactions seront violentes et seront des violations de crimes de guerre. Mais autant vous avez de l'autre côté une résistance qui est composée de loups solitaires, c'est-à-dire de quoi ? D'un peuple, d'individus, et non pas de forces armées, ni encore moins de miliciens. C'est un peuple qui est en train de se défendre, qui est en train d'agir seul, et qui arrive, et qui réussit, et qui est en train de gagner en expertise militaire, sans qu'il y ait derrière lui des fascicules de résistance palestinienne. C'est la raison pour laquelle je pense que... Donc, ils ont été obligés de constater qu'ils ne pouvaient plus répondre à ce genre d'opération de loup solitaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est l'attaque de drone contre l'Iran, qui était une attaque qui a échoué, et que le Wall Street Journal c'est pas par hasard qu'il a rapporté dimanche, je veux dire, que cette attaque a été menée par l'entité sioniste. C'est juste pour, en fait, reluire le blason ou l'image de l'entité sioniste qui sont incapables de répondre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont riposter? Contre qui? Contre tout un peuple? Contre la famille des deux martyrs? Contre qui? Ils ne peuvent pas répondre contre le Hamas. Ils savent très bien que cela va déclencher une guerre régionale. Et encore parce que toutes les fascicules de la résistance palestinienne, le Hamas, le djihad islamique et tous, sont désormais unis. Voire les arènes sont unies. Unification des arènes. Cisjordanie, la bande de Gaza et Jénine. Donc contre qui ils vont répondre et riposter? Ils vont donc tenter de riposter à l'extérieur. Et même la riposte à l'extérieur Bon, elle était faible, mais c'est vraiment pour redonner une sorte d'image à cette entité sioniste qui est capable de répondre. Mais bon.
Merci pour vos explications, Rada Oubala. Restez en ligne, Monsieur Cohen. Est-ce que vous m'entendez mieux? On va réessayer de vous avoir et de d'entendre votre analyse.
J'entends très bien.
Ah, je vous entends mieux aussi, heureusement. On vous écoute.
Alors, en fait, nous allons assister. Ça veut dire, c'est ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que avec ce gouvernement, on va voir le vrai visage du sionisme. C'est-à-dire que auparavant, on disait toujours oui, une solution à deux États. On essayait d'organiser une espèce d'occupation soft, d'occupation qui soit acceptable,
oui,
et par l'autorité palestinienne et par la communauté internationale, en faisant agiter l'illusion d'un État palestinien qui ne viendra jamais. Vous savez que 90% des Israéliens juifs, ou même 95%, sont contre un État palestinien. Donc c'est vraiment une illusion qu'on agitait. Mais là, avec le nouveau gouvernement, il n'y a plus cette espèce d'écran de fumée. On parle de nouvelles colonies. D'ailleurs, la première réaction à ces deux actes de résistance a été « nous devons créer des dizaines d'autres colonies ». Bon, il va y avoir, le gouvernement sioniste va permettre à des milliers d'Israéliens d'avoir une arme, de porter une arme sur soi, parce qu'ils pensent que, beaucoup de citoyens sont armés, dès qu'il y aura un attentat, bon, ceci étant dit, ce n'est pas ça qui va empêcher, ça va créer d'autres tensions, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que parfois, il y a eu une affaire qui remonte il y a plusieurs mois, c'est qu'un Israélien, il a tiré sur quelqu'un qu'il a pris pour un arabe alors que c'était un juif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une paranoïa des Israéliens pour se dire « attention, celui-là, il est suspect, celui-là, il me regarde de travers, celui-là, il me fonce dessus, etc. » Deuxièmement, c'est la première fois, je crois, que les autorités sionistes vont non seulement détruire les maisons des parents de celui qui a commis l'acte de résistance, mais ils vont leur enlever les papiers. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont créer des apatrides. Donc, ils seront obligés d'être chassés quelque part, je ne sais pas où. Et donc, finalement, bon, c'est contraire au droit international, mais on sait très bien qu'Israël s'en fiche pas mal du droit international et que la communauté internationale est incapable de faire respecter ce droit. Mais ça créera encore d'autres tensions. Et les Palestiniens, les jeunes, n'ont plus rien à perdre, finalement, en fait. On les pousse au désespoir, il n'y a plus qu'une solution. Ils savent, ils se rendent compte que chaque acte rend fou les Israéliens, et donc ils pourraient se permettre, parce que de toutes les façons, leur vie est fichue. Leur vie, c'est quoi d'un jeune Palestinien? Quel avenir il a, autant sur le plan de la dignité, de la profession, etc., de la famille, de l'habitation? Voilà, donc on va vers une exacerbation terrible des relations entre ces deux peuples.
Et Monsieur Cohen, en ce qui concerne cette campagne médiatique menée dans les médias occidentaux à inverser la situation, la réaction de l'ONU, des instances internationales, le silence face à ce crime, c'est depuis des années, hein, c'est pas nouveau, mais surtout ces deux, trois derniers jours. Ceci, comment vous l'interprétez?
Vous savez, j'ai écrit un livre sur les Sayanim. Oui. C'est-à-dire que le Mossad, les services secrets israéliens, avait créé un corps de 40 à 50 000 agents qui sont infiltrés, ce sont des citoyens français, américains, britanniques, allemands, etc., qui sont infiltrés dans toutes les instances de pouvoir. Par exemple, en France, mettons, il y a à peu près 4 à 5 000 Sayanim qui sont infiltrés dans les médias, dans la politique, dans l'économie, dans les universités, dans les maisons d'édition. Donc, qui sont des Français, des citoyens français, mais qui travaillent, qui aident le Mossad dans la propagande, etc. Ces gens-là ont formaté les médias, ont formaté les universités. Donc c'est un travail de longue haleine qui a été entrepris. Je vous rappelle que les Sayanim ont été créés en 1959, donc il y a plus de 60 ans. Et donc ils ont eu le temps vraiment de s'installer et d'influencer l'opinion publique. Et donc, comme l'opinion... Par exemple, un exemple, vous savez, Arte, qu'on dit que c'est quand même un organe intellectuel, etc. Arte, comme tout média, a un conseil de surveillance, d'accord, qu'on appelle conseil de surveillance, qui surveille l'éthique, etc. Et vous savez, depuis 20 ans, qui est le président de ce conseil de surveillance? Bernard-Henri Lévy.
Ah,
donc,
oui.
Voilà,
oui.
Voilà, vous voyez déjà. Oui. Alors, imaginez ce qui se passe dans tous les autres médias. Et donc, finalement, il y a un pli qui est pris.
Oui.
Même ceux qui ne sont ni juifs, ils ne sont pas impliqués, ils savent qu'il y a un pli qu'ils sont obligés de prendre. Et donc, c'est ça, c'est tout ce travail qui a été fait souterrainement et que malheureusement, de l'autre côté, on n'arrive pas à faire. Parce qu'il y a quand même 7 millions de Maghrébins en France, enfin, ou en tout cas de musulmans, dont 2/3 sont des Maghrébins, qui pourraient éventuellement s'organiser à la manière de ce lobby et faire entendre leur voix. Donc voilà en partie, et puis en même temps, l'autre côté, c'est que Israël, qu'on le veuille ou non, c'est un allié fondamentalement stratégique de l'Occident.
Oui.
Voilà, on peut pas, je veux dire, l'Occident ne peut rien faire contre Israël. C'est vraiment un élément important de sa politique au Proche-Orient. Et donc, malgré les quelques paroles de réconfort de deux États, etc., quand les intérêts fondamentaux d'Israël sont... L'Occident est là pour le soutenir coûte que coûte.
Exactement. Merci Jacob Cohen. Rada Oubala, nous avons moins d'une minute devant nous. Le mot de la fin est à vous.
Ah bah, que vous voulez que je vous dise? Je pense que nous sommes là dans une phase de crescendo au niveau des opérations. Je l'avais dit auparavant quand une fois vous m'avez invité concernant l'avenir de la question palestinienne lors de la Coupe du Monde 2022. Oui. Et justement, tous ces jeunes de toutes les populations arabes qui refusent justement la normalisation des relations avec l'entité sioniste et qui sont pour la cause palestinienne, ont donné ont boosté, si j'ose dire, le peuple palestinien. Et plus il y a des opérations de loups solitaires qui réussissent, qui enregistrent un succès, plus justement la jeune population sera plus encline justement à s'engager dans de telles opérations. Seulement, je voudrais juste dire un mot,
oui.
C'est que souvent... et là, je ne suis pas, je ne critique pas les propos de votre invité, mais je comprends souvent le facteur religieux, on ne prend pas en considération. Moi-même qui ai vécu en France, je sais de quoi je parle, je sais ce que veut dire la laïcité. Souvent, le facteur, l'impact psychologique de la religion a un tel impact sur la population, c'est-à-dire qu'on considère que dans la population, que ce soit en Palestine ou dans tous les pays arabo-musulmans, qu'en fait, tomber en martyr, c'est vivre. Et non pas, c'est pas par désespoir. On n'est pas désespéré.
Exact.
Et là, ça, c'est très important.
Oui.
Donc, le martyr Mohamed Ali, quand il dit « Qui a dit que nous voulons la paix, nous voulons une guerre sans fin ?» Et sur Facebook, il a écrit ça. Il a écrit « Tu peux battre en retraite pour éviter la guerre, mais tu ne reculeras pas d'un millimètre parce que le combat éclatera. »
Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban, également Jacob Cohen, analyste politique. Merci à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient.
Très chers amis auditeurs, auditeurs et bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. L'Iran envisage de changer de stratégie par rapport à la guerre en Ukraine, et ce, suite aux propos hostiles de Kiev sur l'attaque de drones contre un atelier industriel du ministère de la Défense dans le centre de l'Iran. Si les déclarations hostiles de Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien contre l'Iran, ne sont pas corrigées par les autorités officielles de ce pays, elles pourraient entraîner la réaction de la part de la République islamique d'Iran, a déclaré une source bien informée au site web d'information ou news lié au Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran. L'Iran est probablement en train de changer son approche envers la guerre en Ukraine en réponse à l'aveu implicite de la responsabilité du gouvernement de Kiev par rapport à l'attaque de drones dans la ville d'Isfahan, indique la source. Sous couvert de l'anonymat, la source a déclaré que les allégations hostiles du Conseil spécial du président ukrainien peuvent entraîner des réactions différentes de la part de Téhéran, à moins qu'elles ne soient corrigées par les autorités du pays. L'insistance de l'Ukraine à menacer la sécurité nationale de l'Iran pour ouvrir la voie à un changement de position de la République islamique d'Iran concernant la guerre en Ukraine et à l'adoption d'une nouvelle approche proportionnée au comportement du gouvernement de Kiev, a affirmé la source. Le dimanche 29 janvier, le ministère iranien de la Défense a annoncé dans un communiqué que l'un de ses complexes d'ateliers à Isfahan avait été attaqué par un certain nombre de micro-véhicules aériens, mais que les défenses aériennes ont réussi à la repousser. Le ministère a rassuré que l'attaque n'avait causé aucune perte de vie et n'avait fait que des dommages mineurs au toit d'un atelier. Le complexe, ajoute le communiqué, poursuit ses opérations ordinaires après l'attaque. Y réagissant, Mykhailo Podolyak n'a pas tardé à exprimer sa joie sur son compte Twitter en indiquant « L'Ukraine vous a prévenu ». Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires ukrainien pour demander des explications sur les commentaires de Podolyak. L'Iran a adopté une position de principe sur la guerre en Ukraine depuis son début et a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'arrêter le conflit militaire et sa solution par le dialogue. Alors que le gouvernement ukrainien, provoqué par ses partenaires occidentaux, accusait l'Iran de fournir un soutien en armement à la Russie pendant la guerre en Ukraine, il n'a pas été toutefois en mesure de fournir la moindre preuve pour étayer ses allégations. L'Iran a demandé à plusieurs reprises la tenue d'une réunion conjointe avec la partie ukrainienne pour discuter de toute preuve éventuelle concernant les accusations de Kiev contre Téhéran. La 86e flottille de navires de guerre iraniens navigue actuellement le long de la côte ouest de l'Amérique latine et accostera dans la ville portuaire de Rio de Janeiro, dans le sud-est du Brésil, dans les prochains jours, a annoncé le commandant adjoint de la marine de l'armée iranienne, l'amiral Hamzeh Ali Kavieni, samedi 28 janvier. Malgré les multiples pressions exercées contre la République islamique au cours des 43 dernières années, la puissance militaire de l'Iran s'accroît de jour en jour, a affirmé l'amiral Kavieni, affirmant que la plupart des équipements militaires nécessaires au pays sont fabriqués en Iran. Le commandant adjoint de la marine a déclaré que la 86e flottille de la marine iranienne, composée des navires de guerre Dena et Macron, arborait le drapeau iranien dans les eaux occidentales de l'Amérique latine. Hamzeh Ali Kavieni a également signalé la forte présence des flottilles de la marine iranienne à l'extrémité nord de l'océan Indien. Il est à noter que Dena est un navire de guerre de classe Moj qui a rejoint la marine iranienne en juin 2021. Le navire militaire est équipé de missiles de croisière anti-navire, de torpilles et de canons navals. Quant au Macron, le navire base avancé de 121 000 tonnes, il peut transporter 5 hélicoptères et fournir un soutien logistique aux navires de guerre. La 86e flottille est en passe de battre le record de la plus longue distance parcourue par une flottille iranienne dans les eaux internationales. Celle-ci a quitté le sud de l'Iran début automne pour réaliser un tour du monde. L'Iran reste campé sur sa position de soutien à la nation palestinienne. C'est ce qu'a réaffirmé le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, alors que les Palestiniens poursuivent leur lutte contre les exactions commises par les colons et l'armée du régime d'apartheid d'Israël sous le nouveau cabinet d'extrême droite dirigé par le premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors des conversations téléphoniques séparées, dimanche 29 janvier, avec Ismail Haniyeh et Ziad Nahala, respectivement le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, et le secrétaire général du djihad islamique de la Palestine, Hossein Amir Abdollahian a fermement condamné le dernier massacre en date des Palestiniens sans défense par le régime sioniste. En effet, l'armée sioniste s'en est prise au camp palestinien de Jenin, où 10 Palestiniens, dont une femme, ont été tués. L'Iran se tient aux côtés de ses frères palestiniens, a souligné Amir Abdollahian. Ismail Haniyeh et Ziad Nahala ont remercié l'Iran pour ses positions de principe en soutien à la nation palestinienne à tous les niveaux. Nous sommes fiers des positions annoncées par la République islamique d'Iran, qui s'est toujours tenue à nos côtés contre le régime sioniste et ses exactions contre la Palestine et ses lieux saints, a remercié Ziad Nahala. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a capturé un drone espion israélien au-dessus de la bande de Gaza assiégée. Selon les médias palestiniens, dimanche 29 janvier, la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedin al-Rassam, ont saisi l'avion multirotor Hexacopter et en ont extrait des informations sensibles. Les brigades al-Rassam ont pu capturer à l'aube du vendredi 27 janvier 2023 un drone israélien qui était en mission spéciale à l'intérieur de la bande de Gaza, ont indiqué les brigades dans un communiqué. Nos ingénieurs ont extrait du drone des informations importantes et sensibles liées aux forces d'occupation. Israël a gardé secret de la disparition de son drone jusqu'à ce que le Hamas ait annoncé qu'il avait le drone à sa disposition. Un responsable israélien a reconnu dimanche qu'un tel drone avait atterri à Gaza lors d'une activité opérationnelle vendredi dernier. Le bureau d'information des prisonniers palestiniens fait état de l'incursion brutale des pénitentiaires israéliens contre la prison du Negev et la répression sévère des prisonniers palestiniens, simultanément au massacre des Palestiniens à Jenin et Rots. Des médias palestiniens ont rapporté que les responsables de la prison du Negev ont coupé l'électricité dans ses 26e et 27e sections et ne permettent pas que les prisonniers aient accès à la nourriture. Le ministère des prisonniers de guerre palestinien a également souligné dans un communiqué mis à la disposition des médias. Des conditions tendues règnent dans les prisons de Megiddo, d'Ofer et du Negev. Et depuis ce matin, l'armée israélienne a intensifié la répression des prisonniers palestiniens en menant des dizaines d'entre eux dans des cellules d'isolement. Selon ce rapport, qui se réfère aux informations reçues de l'intérieur de la prison, les soldats israéliens ont tiré une grande quantité de bombes lacrymogènes à l'intérieur des cellules des prisonniers de la prison de Megiddo et ont transféré des dizaines d'entre eux dans des cellules d'isolement. Dans la prison du Negev et la section 9 de la prison d'Ofer, les soldats israéliens ont fait irruption dans les chambres des prisonniers et les ont sévèrement battus. Lors de la réunion du mercredi 25 janvier du Conseil de sécurité portant sur les affaires politiques et humanitaires en Syrie, le représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU a déclaré que les mauvaises politiques américaines dans le monde, dans la région en Syrie en particulier, ont conduit à l'instabilité sécuritaire et à la dégradation des développements au fil des décennies. Le chaos qui en résulte a affligé des millions de Syriens, obligeant nombre d'entre eux à quitter leur foyer, a regretté Bassam Sabah. Il a indiqué que la politique d'incitation au chaos adoptée par les administrations américaines successives dans notre région et en Syrie, qui en constitue une partie importante, a travaillé à fabriquer et à exagérer les problèmes pour attiser les tensions puis les conflits en dépensant des centaines de millions de dollars dans les médias pour tromper l'opinion publique et ternir l'image de l'État syrien. Il a souligné que cette politique malveillante a causé la détérioration de tous les acquis politiques, économiques et sociaux, l'émergence de groupes terroristes tels que Daesh et le Front al-Nusra, et tout cela dans le but de servir les intérêts géopolitiques égoïstes des États-Unis et de leurs alliés. Le représentant syrien près de l'ONU a également fait allusion au pillage par les forces d'occupation américaines des ressources de pétrole, de gaz et de blé de la Syrie, une tendance qui a commencé après la défaite de Daesh, ses ressources s'élevant à plus de 100 milliards de dollars. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Ici, le Moyen-Orient.